Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie, la radio web de l'Institut de France. Nous sommes en 1103, à la charnière du 11e et du 12e siècle. Cette année est une année particulière pour le prince Louis, fils de Philippe Ier, roi de France. En effet, son père va désormais l'associer au pouvoir. Cela ne signifie nullement que Philippe Ier renonce à ce pouvoir, mais que le jeune promis va bénéficier d'une autonomie, et l'autonomie n'est pas l'indépendance, une autonomie donc dans la part d'action royale qui lui est réservée. Louis, futur Louis VI le Gros, est désigné roi, rex designatus, ou encore Dei Gratia rex designatus, roi désigné par la grâce de Dieu. Le temps du sacre n'est pas encore venu, il n'interviendra que quelques années plus tard, en 1108. Quelle image gardons-nous de ce roi dont nous n'avons aucune représentation, sinon celle d'un sot qui n'était qu'une expression de la majesté royale? Le Gros est bien évidemment une désignation peu flatteuse, nous renvoyant à une piètre figure, un homme, dit l'historiographie, certes courageux, mais pas très malin, en une époque considérée comme un temps obscur, sinon obscurantiste. Dans le dictionnaire encyclopédique Moore, on peut lire que Louis VI était, je cite, « gros buveur », gros mangeur, mais c'est pour immédiatement ajouter que son règne constitua une étape décisive dans l'affermissement de la monarchie capétienne. Qui fut donc Louis VI, dit le Gros? C'est ce que l'émission Un jour dans l'histoire vous propose de découvrir avec l'historien Éric Bournazel. Éric Bournazel, bonjour.
Bonjour et je salue les auditeurs de Canal Académie.
Alors vous êtes professeur à l'université Paris 2, Panthéon Assas, spécialiste de l'époque médiévale, notamment de l'histoire des institutions, hein. Et vous êtes notamment l'auteur avec Jean-Pierre Poli d'un ouvrage qui fait référence, La mutation féodale, à un ouvrage paru aux presses universitaires de France et réédité il y a 3 ans, hein. Je crois qu'il s'agit de la 3e réédition. Et vous venez de publier une biographie de Louis VI aux éditions Fayard. Une biographie très très riche, divisée en 2 parties, une partie chronologique, une partie plus institutionnelle. Les 2 parties sont égales. Un ouvrage très riche et on a envie de dire étonnamment riche parce que les sources sont peu nombreuses. Et vous le dites dès le début de votre ouvrage, ma foi, pour trouver des sources sur Louis VI, eh bien, il faut énormément gratter.
Oui, effectivement, il faut gratter. Alors, de quoi dispose-t-on? Eh bien, on dispose d'abord de toute une documentation officielle qui est constituée par les actes royaux sous toutes leurs formes, essentiellement les diplômes qui ont été délivrés par la chancellerie capétienne. Au nom du roi, encore que tous n'aient pas été rédigés par la chancellerie, souvent elle se contente de mettre en forme des diplômes qui lui sont préparés. Et on dispose aujourd'hui, et grâce à Jean Dufour, un éminent chartiste, d'une très bonne édition de ces actes de Louis VI. Et c'est là donc une première source. Et puis on dispose de chroniques. Et on dispose notamment d'une vie de Louis VI par Suger, l'abbé de Saint-Denis, qui est à la fois très précieuse et qui, en même temps, a pu fausser la vision qu'on pouvait avoir de Louis VI parce que...
C'est une vision unique ?
Non, elle n'est pas unique, il y a d'autres sources, mais celle qui émane de Suger a consisté à, pour faire simple, disons privilégier ou mettre aussi en relief le rôle de Suger dans l'entourage royal. Et il a tendance à éclipser d'autres personnes ou personnages qui ont tenu une place, notamment sous le règne de Louis VI, plus importante, à mon sens, que Suger, dont la période de gloire est sous le règne de Louis VII. C'est là, d'ailleurs, qu'il écrit sa vie de Louis VI. Alors, les autres sources, eh bien, ce sont des chroniqueurs également, plus ou moins proches de la royauté, comme un certain Guibert de Nogent, qui nous a laissé une histoire de sa vie. C'est un petit abbé de Nogent-sous-Coucy, relativement éloigné de la faveur royale. Il a quelques distances donc avec la royauté. On dispose aussi d'une chronique d'un moine de Morigny. Et Morigny, un monastère pas loin d'Orléans, et Orléans au tout début du règne de Louis VI et dans le prolongement de celui de Philippe Ier, c'est plutôt la capitale des Capétiens avant de devenir Paris au temps de Louis VI. Et puis on a également des chroniqueurs normands, anglo-normands. Louis VI, ayant passé la majorité de son règne à se battre avec son grand rival Henri Ier, roi d'Angleterre et duc de Normandie, eh bien, on est renseigné par ces chroniqueurs normands et au premier chef par Orderic Vital. Et puis, un petit peu plus lointain, mais pas tant que ça, du côté de la Flandre, où Louis VI a été amené à faire des incursions, eh bien, on a des chroniqueurs qui également nous renseignent sur ces interventions de Louis VI en Flandre, avec Galbert de Bruges, une histoire du meurtre de Chartres le Bon, puis d'autres chroniqueurs également.
Donc on retrouve son miel, on puise le miel là où il se trouve. Alors vous citez énormément dans la présentation des textes Louis VI, mais nous commençons l'émission évidemment sur sa jeunesse. Il doit être difficile de trouver des actes royaux précisément sur cette jeunesse. Quel type de jeunesse a-t-on quand on est roi au XIe siècle ?
Oui, alors c'est une question relativement difficile et qui est là aussi faussée, à mon sens, par la vision que nous donne Suger. On est renseigné sur la naissance proprement dite du roi Louis VI parce que elle a été entourée de miracles, de présages. Et ce fut le cas également pour Philippe Auguste. Mais pour les autres rois, on est très très peu renseigné sur leur naissance. Et la date est souvent approximative de la naissance de Philippe, le fils aîné de Louis VI, ou de Louis, son cadet, qui deviendra Louis VII. Ensuite, eh bien, nous savons que, par Suger, que Louis VI, le futur VI, le prince Louis, aurait été élevé, c'est ce qui sous-entend, à l'abbaye de Saint-Denis, où il aurait d'ailleurs croisé, mais très brièvement, Suger. Est-ce que Louis a été tout le temps élevé à l'abbaye de Saint-Denis ? Il y est passé, certainement, autant que le dit Suger, ce n'est pas sûr. Peut-être a-t-il fréquenté également du côté d'Orléans, il y avait des écoles. En tout cas, pour revenir à la question, ce roi a fait l'apprentissage d'un certain nombre de choses élémentaires qu'il convenait de savoir. Lire et écrire, tout d'abord. Bon, et ça, on sait qu'il savait lire et écrire. On le sait, par exemple, on sait que Philippe Ier, son père, à Louis VII, était capable de lire la promesse du sacre lors de la cérémonie qui le consacrait roi. Donc, ces rois sont au minimum instruits d'un certain nombre de choses. Et puis, comme tout jeune noble, disons, il a fait l'apprentissage du métier des armes. Et on retrouve Louis VI entouré très tôt d'un personnage qui s'appelle le maître Éloin. Et ce maître est loin, ce n'est pas à proprement parler un maître d'armes, comme l'a montré Jean Dufour. C'est un maître des écoles parisiennes, peut-être un ancien écolade de Notre-Dame, mais c'est quelqu'un qui est issu d'une famille chevaleresque parisienne et qui connaît également le métier vraisemblablement des armes, en tout cas qui va suivre, escorter le jeune prince Louis. Et puis il y a l'entourage du vieux roi également qui veille sur l'apprentissage militaire du jeune prince.
Mmh. Mais... justement, quels sont les rapports qu'il entretient, que ce jeune prince entretient avec son père ? Vous avez un des titres d'un sous-chapitre est « Tel père, tel fils ». Ils se ressemblaient beaucoup ?
Oui, d'abord que Louis VI, le prince Louis, avait hérité, si l'on peut dire, des défauts à la fois paternels et maternels, notamment son obésité, du côté aussi bien de sa mère, la reine Berthe de Hollande, que du côté de Philippe Ier. Et ils auront une trajectoire assez parallèle, c'est-à-dire que Louis VI n'est pas devenu gros tout de suite, il l'a été au fil du temps. Quand il est jeune, il est plutôt grand, mince, et puis cela tient à son hérédité, ça tient aussi à l'alimentation de cette époque, eh bien, son apparence physique va se détériorer. Et il sera, sur la fin de ses jours, atteint par l'obésité. Il faudra que ses compagnons le transportent au passage de quelques cols difficiles, notamment lors de la seconde expédition en Auvergne, en 1126, eh bien, on s'aperçoit que le roi est déjà très, très fatigué. Alors, quant au rapport avec son père, je me sépare de l'historiographie traditionnelle, hein, parce que je n'ai pas été le premier à écrire sur la question. J'ai eu des prédécesseurs et illustres, je pense à Augustin Flisch, qui a écrit un ouvrage sur Philippe Ier, Achille Luchaire également, qui a beaucoup écrit sur Louis VI et qui a été l'auteur d'un catalogue des actes de Louis VI. Et la tendance de l'historiographie, qui a été ensuite reprise par la suite, était de considérer que Philippe Ier, qui à l'origine était un grand roi, un bon roi, se serait désintéressé totalement des affaires du royaume à partir de 1092, lorsqu'il enlève Bertrade, la femme du comte d'Anjou. Et à partir de là, il aurait plus rien fait, il aura abandonné le soin du royaume à son fils, ne se préoccupant uniquement de celle que l'on considère comme sa concubine. Alors, le prince Louis, c'est le petit qui aurait en quelque sorte tout fait, qui s'occupait de tout, qui décidait de tout. Et quand on regarde la documentation, on s'aperçoit que cela n'est pas vrai. Philippe Ier n'a renoncé à aucun moment au devoir de sa charge. Il se faisait lui-même, et il s'est fait tout au long de son règne, une très haute idée de la majesté royale. Et je pense que de ce point de vue-là, le prince a été à bonne école. On constate que Louis n'exerce qu'un pouvoir qui est un pouvoir délégué, un pouvoir d'exécution, effectivement, et qui va prendre de plus en plus d'importance au fil du temps, au fur et à mesure qu'il mûrira. Mais encore une fois, il est encadré de très près et par les compagnons du vieux roi, même s'il a son propre entourage, et suivi par le vieux roi lui-même, par Philippe Ier. Et cela, même lorsqu'il commence à être associé aux affaires de la royauté.
Je reçois Éric Bournazel, historien et auteur du livre d'une biographie de Louis VI le Gros, paru aux éditions Fayard. Nous nous retrouvons dans une seconde.
L'écrivain Frédéric Vitoux de l'Académie française se confie à Canal Académie. Il raconte sa passion pour Céline, sa biographie de Rossini, son œuvre de critique, de romancier, de scénariste. Frédéric Vitoux, une vie littéraire bien remplie, dans l'émission En habit vert sur Canal Académie.
Vous êtes à l'écoute de Canal Académie et je reçois Éric Bournazel, auteur d'une biographie parue aux éditions Fayard, consacrée à Louis VI le Gros, une biographie divisée en deux parties bien distinctes. Je le signale parce que la démarche est rare, mais elle en vaut la peine, si je puis dire, puisque vous présentez à la fois la chronologie dans une première partie, Éric Bournazel, et dans une seconde partie, une partie beaucoup plus institutionnelle. Parlons justement d'institution et d'institution royale. Nous avons évoqué un peu la jeunesse de Louis VI. À la mort de Philippe Ier, donc son père, la règle du « le roi est mort, vive le roi » n'est pas encore entrée finalement dans le droit. Et vous dites que c'est une époque où finalement tout est à craindre et il faut très vite oindre, c'est-à-dire sacrer le roi. Et c'est le sacre qui fait le roi ?
Oui, le sacre fait incontestablement le roi, mais ce qu'on appellera le principe d'instantanéité de la succession n'apparaîtra proprement parler que plus tard, en 1403 et 1407, où on décidera justement que le roi devenait roi dès la mort de son prédécesseur. Quitte à être sacré rapidement après. Alors, une coutume, une pratique institutionnelle qui est en train de s'installer, portée par les premiers Capétiens qui avaient rompu justement avec les Carolingiens qui eux-mêmes avaient rompu avec les Mérovingiens. Il est certain que la continuité royale n'est pas totalement acceptée, ou on craint qu'elle ne le soit pas.
Oui, oui.
Et là, particulièrement, aux alentours de 1108, on a éprouvé le besoin de sacrer très rapidement Louis VI, parce qu'il y avait des craintes, alors réelles ou supposées, on ne sait trop. Toujours est-il qu'on a sacré quelques jours après la mort du roi, et on a sacré Louis VI à Orléans, alors qu'on aurait attendu qu'il fût sacré à Reims.
Oui, vous présentez, vous dites à peine la cérémonie terminée, alors que l'archevêque, après la célébration du service divin, n'avait pas encore déposé ses ornements de fête, des messagers de l'église de Reims firent irruption, brandissant des lettres de contestation et qui, se fondant sur l'autorité apostolique, interdisaient avec force de menace de procéder à l'onction royale. C'est un épisode un peu comique de cette histoire. Vous évoquez cette fragilité du pouvoir. Quelle est précisément la réalité du pouvoir capétien à cette époque et quel est au fond le niveau de son enracinement ?
La réalité du pouvoir capétien, bon, en théorie, le roi règne sur tout le royaume. Dans la réalité, eh bien, son autorité immédiate s'étend en gros sur le domaine dont il dispose, disons l'Île-de-France au sens large. Et autour, eh bien, il y a ce qu'on appelle les principautés, les duchés, les comtés, qui sont en principe tenus du roi, pour lesquels les grands doivent faire hommage et fidélité, ce que certains, et notamment les plus grands du côté de la Normandie, par exemple, ne sont pas toujours très empressés. Mais il y a aussi, quand même au XIIe siècle, chez ces mêmes princes, l'idée qu'ils appartiennent au royaume. Et que, quelque part, si l'on veut, ils dépendent du roi, même s'ils ne sont pas très très pressés de venir lui prêter hommage ou de s'acquitter des obligations qu'ils auraient au titre de l'hommage, l'aide et le conseil.
Ouais. Le roi, bien évidemment, n'est pas seul, il est entouré. Nous ne sommes pas encore dans la féodalité qui est naissante, c'est bien cela ?
Ah si, depuis l'an 1000.
Depuis l'an 1000, on parlera de féodalité. Le roi n'est pas seul, il peut obtenir cette aide et et ce conseil, finalement, les princes ne se pressent pas pour lui apporter cette aide.
Voilà, ce qui pose le problème de l'entourage royal. Avec qui le roi gouverne ? Eh bien, au temps de Philippe Ier, mais déjà le phénomène remontait aux années 1020, on avait vu surgir dans l'entourage royal de petits seigneurs et châtelains qui étaient les vassaux du roi et qui, eux, venaient justement dans l'entourage royal, ce qui ne faisait pas nécessairement plaisir aux grands qui commencent à se désintéresser, si on peut dire, de la royauté. Surtout que les premiers Capétiens ont pratiqué le sacre anticipé qui associait leur fils à leur gouvernement. L'élection par les grands est devenue une acclamation après l'onction du sacre. Les grands ont moins de prise sur la royauté, se désintéressent d'un roi dont les prérogatives ne sont pas très très différentes des leurs. Hein. Le niveau de puissance qu'il peut y avoir entre un duc de Normandie et le roi de France à certaines époques n'est pas nécessairement en faveur du roi de France. Et donc, il y a cette désaffection des plus grands laïcs, qui a été suivie également par un certain nombre de grands ecclésiastiques qui sont moins présents à la cour, du fait de la réforme grégorienne, qui les astreint à des tâches plus conformes à leur état. Et donc, sous le règne de Philippe Ier, l'entourage du roi, c'est souvent, est composé de petits comtes, de petits seigneurs de l'Île-de-France. Et à l'époque de Louis VI, l'entourage du jeune prince, d'abord, ce qui forme sa maison, sa familia, sa maison royale, on appellera
la
familia Régis, bien est composé de personnages qui sont assez souvent de petits chevaliers, des villes et des gros châteaux de l'île de France. Et qui forme le noyau, alors qui est renforcé de temps en temps par des évêques, des abbés, notamment des abbés du domaine royal, mais pas seulement, qui viennent près de rois, de certains comtes également, mais relativement plus nombreux. Donc le noyau dur de l'entourage royal, c'est ce petit milieu chevaleresque.
Mais alors, est-ce que Louis VI essaie et arrive à, malgré tout, je ne vais pas utiliser le terme de fédérer, mais lutter contre ce désintérêt de la part des grands princes?
Oui, puisque ça sera un des apports principaux de son règne, et qui était dans la prolongation d'ailleurs de ce qu'avait fait son père Philippe Ier, il n'aura de cesse d'obtenir la reconnaissance sous forme d'hommage des grands du royaume, et particulièrement du duc de Normandie, qui est aussi à notre époque le roi d'Angleterre, et qui en qualité de duc, de roi, se considère comme l'égal du roi de France. Il est lui aussi sacré, mais le malheur du roi d'Angleterre, c'est qu'il est duc de Normandie, et qu'il est dans une position fausse, d'ailleurs vis-à-vis de son seigneur, le roi de France, c'est qu'il ne peut pas refuser, c'est valable pour tous les grands princes territoriaux, ils ne peuvent pas refuser au roi ce qu'eux-mêmes exigent de leurs propres vassaux. Louis VI, tout au long de son règne, n'aura de cesse d'obtenir qu'on lui fasse l'hommage pour la Normandie, l'hommage pour la Flandre, et il se battra, il va se battre pour ça. Et justement, il va contribuer au développement d'une royauté qu'on pourra dire féodale, où le roi apparaîtra comme le seigneur des seigneurs, c'est-à-dire le suzerain suprême.
Alors qu'au prime abord, on peut être étonné, parce que au fond, Louis VI, d'ailleurs Suger le dit, apparaît davantage comme un grand chevalier plutôt qu'un roi, et pourtant, c'est l'apport de votre biographie, il se montre au-dessus de ces grands chevaliers et de ces princes.
Il essaye. Il essaye. Alors, effectivement, Louis VI, notamment dans sa jeunesse, est assez turbulent, il est un peu tout fou, courageux, nettement, mais courageux jusqu'à la témérité. et il lui arrivait un certain nombre de déboires, et de déboires militaires, un peu comme François Ier qui s'aventure trop loin et qui manque de se faire...
Véritablement, il allait sur le terrain, il va très jeune sur le terrain, il n'a pas 20 ans. Vous évoquiez tout à l'heure, dans l'entourage du prince, le rôle de l'Église, et vous parliez de la réforme grégorienne. Quelle relation a ce roi avec la papauté, qui enclenche une grande, très grande question que fut la querelle des investitures, puisque nous sommes encore une fois dans ce mouvement de la réforme grégorienne et de cette papauté qui veut récupérer ce pouvoir.
Oui, alors là, ces rapports, eh bien, commencent à être ambigus à partir du règne de Philippe Ier, puisque les effets de la réforme grégorienne, c'est-à-dire ces efforts de la papauté pour d'abord se réformer elle-même et devenir ensuite réformatrice, pour essayer d'arracher l'Église aux mains des grands, aux mains des laïcs, vont porter leurs fruits dès le règne de Philippe Ier, où la papauté combat ce que l'on appelle la simonie, c'est-à-dire les ventes d'évêchés et d'abbayes, et le nicolaïsme qui désigne le mariage des prêtres. Et c'est de cette époque, d'ailleurs, que date fermement l'interdiction pour les prêtres catholiques de se marier. Donc il y a tout un mouvement de réforme de l'Église. Il y a une volonté de la papauté de contrôler la société tout entière, et à commencer par les plus puissants. Et cela par le biais des mariages, en christianisant le mariage, en interdisant les mariages pour cause de parenté, pour cause d'inceste. Il y a tout un contrôle que l'Église s'efforce d'instaurer sur les puissants de ce monde. Et Georges Duby l'avait fort bien montré, Jean-Pierre Poli a repris ces thèmes-là dans son chemin des amours barbares. Là, il y a cette volonté de contrôle.
Alors comment Louis VI va faire face à cette volonté? C'est ce que nous allons voir dans un instant.
Sur Canal Académie, découvrez le parcours étonnant du naturaliste Théodore Monod de l'Académie des sciences. Initialement océanographe, il tomba littéralement amoureux du désert, où jusqu'à ses 92 ans, il foula le sable de longues marches, toujours à l'affût de nouvelles plantes, fossiles ou roches. Retrouvez dans notre médiathèque la vie de Théodore Monod, contée par son biographe Roger Kans.
Je reçois Éric Bournazel, professeur d'histoire et également professeur d'histoire des institutions. Vous avez écrit, Éric Bournazel, une biographie consacrée à Louis VI le Gros, parue aux éditions Fayard. Alors, avant de laisser nos auditeurs, nous évoquions ces relations, en fait, ce mouvement de la papauté, mouvement, volonté de centralisation. Comment Louis VI arrive à faire face à ce mouvement? Est-ce que, au fond, il se soumet avec humilité, ou bien on peut trouver chez lui, dans son règne, déjà des sources de ce qu'on appellera plus tard le gallicanisme?
Incontestablement. Nous avons évoqué les revendications de la papauté, les efforts pour développer ce qu'on pourrait appeler une théocratie pontificale. Le problème de la papauté, c'est que le pape n'est pas nécessairement toujours bien installé sur son trône romain. Il est en butte et en conflit. Vous parliez de la querelle des investitures, d'abord avec l'empereur d'Allemagne. Et également, c'est une époque de schismes pontificaux dus à des rivalités entre les grandes familles romaines. Et les papes, ou certains d'entre eux, de la fin du règne de Philippe Ier et du règne de Louis VI, ont été bien souvent obligés de quitter en catastrophe Rome, où leur élection était contestée, où ils étaient en prise avec l'empereur et obligés de fuir la Rome éternelle pour trouver refuge auprès du roi de France.
C'est-à-dire que le roi de France est un protecteur, malgré les déboires du père de Louis VI.
Mais même à la fin du règne, on le voit très bien, c'est à la fin du règne de Philippe Ier, avec le pape Pascal II, que l'affaire Bertrade va être en principe réglée. Mmh. Mais c'est là aussi que le pape va tenir un concile où on va délier le prince Louis d'un mariage qu'il avait imprudemment consenti avec Lucienne de Rochefort. C'était là la stratégie royale pour mettre la main sur les seigneuries de Montlhéry et de Rochefort qui barraient la route entre Orléans et Paris. Donc, épisodiquement, le roi de France va jouer un rôle de Philippe Ier, Louis VI, va jouer un rôle de protecteur de la papauté vis-à-vis de son ennemi, entre guillemets, premier, qu'était l'Empire, tant qu'il n'y aura pas ce concordat de Worms qui va mettre fin à la querelle des investitures. D'un autre côté, le roi de France a intérêt, lui aussi, à avoir un clergé digne.
C'est un des premiers rôles du roi, hein, vous le rappelez notamment lors de la cérémonie du sacre, c'est de protéger l'Église.
Oui, ça fait partie de cette image d'un roi très, très chrétien que venait justement soutenir et développer le sacre. Mais d'un autre côté... Et vous parliez d'église gallicane. Le roi de France ne peut pas se désintéresser des élections aux évêchés, aux abbayes. Mmh. Il faut bien voir ce que représentent les grands évêchés, les grandes abbayes. Une abbaye comme Saint-Denis, ce sont des domaines où sont contenues des troupes. Et des troupes du roi de France, l'host de Saint-Denis, qui combattra avec le roi de France. Ce sont des intérêts considérables qui sont en jeu. Donc, dans ces procédures, dans cette procédure d'élection, eh bien, le roi de France, comme d'ailleurs le roi d'Angleterre, ne peut pas se désintéresser de la destination de ces grands évêchés ou de ces grandes abbayes, dont on considère que elle aussi, pour une partie matérielle, si vous voulez, pour les domaines, elles sont aussi tenues du roi.
Il y a des intérêts, mais vis-à-vis de la papauté, la conciliation est parfois difficile, hein, vous le dites, hein, vous évoquez, je vous cite, les aspirations fondamentales de l'une et l'autre puissance étaient difficilement conciliables, et on a l'impression même que la papauté s'est servie un peu du roi de France.
Ben c'est selon les époques, et réciproquement, un pape comme Innocent II en 130, doit son élection en grande partie au roi de France, à l'entourage royal qui organise un concile à Étampes auquel participera Saint-Bernard, mais pour choisir Innocent II plutôt que le pape Anaclet II, qui était également présentable et qui avait noué de bons liens avec le roi de France. Donc c'est un mouvement de bascule suivant les périodes et suivant que le roi de France est plus ou moins en difficulté. On le voit à l'époque d'un autre pape, Calixte II, qui était l'oncle de la reine Adélaïde, c'est-à-dire de la reine de France. Donc on peut dire que les relations allait être excellente entre papauté et royauté à cette époque-là. Certes, mais c'est l'époque aussi où Louis VI va se faire battre par son grand rival Henri Ier à Brémule. Et il n'est pas spécialement en situation de force. On voit que c'est le pape qui va s'interposer entre le roi d'Angleterre, duc de Normandie, et le roi de France pour essayer d'arranger les choses. Et à ce moment-là, on ne peut pas dire que ce pauvre Louis VI maîtrise tout.
Alors, dans votre évocation de l'Église, vous parliez de Saint-Denis et notamment de ses domaines. Il y a la question économique qui est importante dans votre ouvrage. Vous l'abordez dans votre chapitre 12, « Campagnes et villes », qui est un chapitre passionnant parce qu'il montre, au fond, que le système seigneurial accompagne une véritable réforme économique du pays. Est-ce qu'on peut parler de cela ?
Effectivement, les historiens s'accordent à peu près sur la question, comme il y a toujours quelques controverses, mais la dynamique seigneuriale, la seigneurie est un système qui repose non pas comme on le croit souvent sur la corvée à proprement parler, les corvées existent, mais pour une part assez mince, quelques corvées de charrois ou d'entretien du château, de la forteresse. La seigneurie est un système qui repose essentiellement sur la rente. Et, c'est-à-dire des prélèvements. Des prélèvements qui ont été assez rapidement seigneuriaux, fixés par la coutume, alors sous des forces diverses, vous savez, les banalités, ce qu'on appelait les banalités, c'est-à-dire les obligations, d'aller moudre son grain au moulin du seigneur, cuire son pain à son four, d'engranger dans ses greniers une partie de ses récoltes. Et comme assez rapidement ces rentes ont été fixées par la coutume, elles demeurent fixes. Elles sont pour les paysans une incitation à produire davantage. Et on constate que bien le 11e, 12e siècle, à partir du 11e siècle, c'est une époque de défrichement. On augmente les surfaces cultivées. C'est une époque aussi d'amélioration des techniques, d'accroissement des rendements. Moi, je renvoie au beau livre de Philippe Contamine sur la question. Puisque l'Institut est à l'honneur et qui résume bien cette évolution. Et donc, il y a une dynamique qui se traduit d'ailleurs par un accroissement démographique aussi, avec les incidences que ça peut avoir sur les familles. Et effectivement, il y a un contexte au XIIe siècle de relative prospérité engendrée.
Alors, comment Louis VI, justement, se place par rapport à ce mouvement? Est-ce qu'il peut l'accompagner?
Oui.
On ne parle pas d'intervention de l'État à l'époque, bien évidemment, mais est-ce qu'il peut l'accompagner?
Oui, parce que c'est l'autre versant de la royauté, mais c'est même le premier versant, c'est que dans ces domaines, Louis VI est un seigneur comme un autre. Il est un seigneur comme un autre, avec des agents seigneuriaux qui perçoivent des exactions ou des coutumes seigneuriales. Et il est comme les autres, entraîné, il a ses serfs, il est entraîné dans cette dynamique. Alors cette dynamique rurale, auquel on peut ajouter une dynamique urbaine à laquelle va participer Louis VI, c'est l'époque d'extension notamment de Paris, sur la rive droite, au nord, où on voit la royauté, les membres de l'entourage royal qui sont associés à des constructions de maisons, à des lotissements, de même que la royauté sera associée dans ces domaines ruraux à des fondations d'hosties, c'est-à-dire l'installation d'hôtes qui ont pour charge de défricher des terroirs et en contrepartie desquels ils reçoivent un certain nombre d'avantages, d'exemptions diverses.
Restez à l'écoute de Canal Academy, nous nous retrouvons après cette toute dernière pause.
Florence Delay de l'Académie française sur Canal Académie. Elle aurait pu nous parler de civilisation hispanique ou de cinéma. Elle fut Jeanne d'Arc à l'écran. Non, elle a choisi de rendre hommage à un homme hors du commun, l'évêque Daniel Pézeril. Écoutez Florence Delay dans l'émission Au fil des pages sur Canal Académie.
Nous entamons la dernière partie de cette émission consacrée donc à Louis VI le Gros et je reçois Éric Bournazel, historien et auteur d'une biographie consacrée à ce roi, une biographie parue aux éditions Fayard. Éric Bournazel, nous avons évoqué la question de l'entourage royal, la familia regis, nous avons évoqué également l'Église, l'importance bien évidemment de l'Église à cette époque. Je voudrais terminer cette émission sur la personnalité même du roi. D'abord, est-ce qu'à travers les sources, on ressent, il est toujours difficile pour l'historien de connaître vraiment le tempérament, la voix des personnages, parce qu'évidemment nous n'avions pas d'enregistreur à cette époque, est-ce qu'on arrive dans les sources à sentir la personnalité du roi?
Oui, je le pense, mais à partir d'anecdotes, mais qui en disent assez long sur justement l'atmosphère qui devait régner dans l'entourage immédiat de la royauté. Pour ce qu'on peut saisir des mentalités, c'est une période où on extériorise beaucoup, c'est-à-dire les chagrins sont très spectaculaires et sans doute les joies aussi. Et alors on voit Louis VI se livrer à des plaisanteries plus ou moins douteuses qui devaient faire beaucoup rire autour de lui.
C'est un grand enfant. c'est l'expression qui
ça serait péjoratif. Non, ouais. Non, je crois que c'est un jeune homme qui a été entouré de jeunes gens et qui, contrairement, je pense, à son fils Louis VII, qui était plus austère, plus monacal, qui était beaucoup plus débridé. Sur le terrain de bataille, c'était un baroudeur, nous l'avons vu, avec les excès que cela pouvait entraîner. Ou une petite anecdote, au moment de son avènement, il trouve spirituel de réclamer à l'évêque Yves de Chartres, une sorte de cadeau de joyeux avènement, 4 pots de chat. Et colère de l'évêque Yves de Chartres, hein, celui qui avait présidé à l'organisation du sacre en 108, une des grandes figures et des consciences de l'Église de l'époque, réclamait 4 pots de chat. Ça avait quelque chose de dérisoire d'abord, parce qu'avec 4 pots de chat, on peut rien faire, on peut même pas faire un bonnet. En fait, ce que j'ai tendance à penser, c'est que le prince Louis s'était moqué. En quelque sorte de l'évêque, ce qui était un peu irrévérencieux, mais qui avait sans doute fait beaucoup rire dans son entourage, surtout qu'il n'avait pas demandé lui-même, il avait envoyé quelqu'un pour demander les pots de chat. On le voit également dans la manière, bon, une anecdote qui est racontée par un étudiant anglais, Gauthier Mapp, qui écrit plutôt sous le règne de Louis VII, mais qu'il attribue à Louis VI. Hein, on voit Louis VI recevoir des ambassadeurs de l'empereur d'Allemagne, avec toute la dignité qu'on peut imaginer chez ces personnages. L'empereur, que par ses messagers, demandait au roi de France exigeait du roi de France un certain nombre de choses, qu'il cesse la guerre avec le comte voisin Thibaut de Bois, etc. Et Louis VI aurait répondu prout à l'allemand avec onomatopée et gestes significatifs qu'on peut imaginer. Alors, ça, c'est un versant, un des versants du personnage.
Parce qu'il y a un versant où, véritablement, on voit qu'il a conscience de sa charge royale.
Voilà ce qui n'empêche pas le reste. Ouais. Il y a également, dans son entourage, et là, on le voit dans les textes. Et c'est aussi dans le prolongement du règne de Philippe Ier. On va développer toute une conception, justement, de ce que doit être la majesté royale. Même si, de temps en temps, Louis VI peut l'oublier. Lorsqu'il défie, par exemple, Henri Ier d'Angleterre en un combat singulier, et qui puissait sur un pont branlant au-dessus de la rivière, bon, ça amuse tout le monde. Au moins parmi les jeunes gens de son entourage. Ça consterne un certain nombre de grands dans l'entourage du roi de France et ça consterne totalement Henri Ier d'Angleterre qui refuse de se livrer à ses gamineries. D'un autre côté, on développe dans l'entourage royal, et le roi finira par s'en persuader, l'acharnement qu'il met à exiger de ses vassaux l'hommage, et notamment du duc de Normandie, même si l'hommage sera prêté par le fils du duc, mais pour la Normandie, est quelque chose qui montre, qui se fait aussi une certaine idée de ce qu'est la majesté, de ce qu'est la dignité royale.
Vous parlez également du royaume, de la couronne. Ce sont l'émergence en quelque sorte de concepts qui étaient, j'allais dire, qu'à l'état de prémisse les années auparavant.
Incontestablement, c'est l'époque où on voit se développer cette notion de couronne. La notion de couronne, c'est le précédent de la notion d'État. Et cette idée aussi que la couronne dépasse le roi. On a l'idée des chats qui émerge, qui sera repris par Kantorowicz, les deux corps du roi, son corps charnel et son corps mystique, qui rejoint justement cette idée de couronne qui elle-même se rattache au royaume et qui dépasse la personne mortelle du roi et qui est destinée à lui survivre.
On sent une autonomie qui se développe, notamment par rapport au pouvoir spirituel, nous l'avons évoqué, et pourtant, comme tous les gens de son époque, ça reste un homme de foi. Vous décrivez sa mort avec toute la mise en scène qui est une preuve au fond d'extrême humilité.
Ah oui, mais incontestablement. Mmh. Louis VI, comme ses prédécesseurs et ses successeurs, est quelqu'un de très croyant, fondamentalement croyant. Mais cela n'empêchera pas d'avoir, et comme c'est quelques-uns de ses successeurs, on pense à Philippe IV le Bel, des rapports parfois tendus avec la papauté. Et c'est l'époque où justement on va construire, on va prolonger cette idée d'une royauté féodale en considérant que le roi ne tient son royaume que de Dieu, éventuellement par l'intermédiaire de Saint-Denis. C'est à ça que s'emploieront, justement sous le règne de Louis VII, les Dionysiens. Mais cette idée que le roi tient de Dieu suppose que son royaume, il ne tienne d'aucune puissance terrestre, à commencer par le pape ou l'empereur. Et c'est l'affirmation justement de l'autonomie dans sa sphère du pouvoir royal qu'on voit fort bien se manifester.
Je reviens quand même sur sa mort le 1er juillet 1137. Donc il est fortifié, hein, vous dites, dans sa personne du signe de la Sainte Croix munie du Saint Viatique. Et il est déposé sur le sol un tapis et sur ce tapis une croix de cendre sur laquelle ces gens le déposèrent. Tout redevient poussière et au fond, tout grand qu'il était, il lui aussi redeviendra poussière, et c'est un signe d'humilité que de vivre ces derniers instants de la sorte.
Absolument, il va au bout de l'humilité, et on orchestre, il y a tout un cérémonial mortuaire, funéraire, qui est justement parfaitement orchestré, qu'il avait répété en 1135, lorsqu'il avait cru une première fois sa dernière heure arrivée, où il s'était dépouillé. Et où il avait investi d'ailleurs un peu son fils, et à ce moment-là c'est le prince Louis VII, où il avait finalement retrouvé une seconde jeunesse en apprenant la mort de son vieux rival, le roi d'Angleterre, Henri Ier. Mais ce n'était qu'une répétition, et deux ans plus tard, le roi, c'est l'image d'un roi aussi qui sait s'abaisser, d'un roi serviteur de Dieu, qui sait s'abaisser devant Dieu, mais pas nécessairement.
Comme disait Bossuet à la mort de Louis XIV, seul Dieu est grand. Voilà. Et bien sûr, c'est sur cette vertu d'humilité que nous allons nous quitter. Éric Bournazel, je vous remercie vivement d'avoir répondu à notre invitation.
Merci de m'avoir invité.
Je rappelle à nos auditeurs le titre de votre ouvrage, une biographie donc consacrée à Louis VI, le Gros, paru aux éditions Fayard. Merci et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire.